Et c'est donc le journal de Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Il n'y aura pas de présidentielle le 4 juillet en Algérie. Le Conseil constitutionnel a rejeté les deux seules candidatures déposées dans les délais, précision de Leïla Berhatou. La coalition allemande bat de l'aile après la démission de la présidente du SPD, Andrea Nahles. Nous serons en ligne de Berlin dans un instant. Invité de cette édition, Hasni Abidi, spécialiste du Moyen-Orient, à la faveur des premières évacuations du camp de déplacés d'Al-Hol dans le nord-est syrien. Audience expéditive et procès en inéquité de la justice irakienne qui a condamné à mort deux autres Français ce matin, suivi à Bagdad de Céline Martelet. Enfin, les mutilés gilets jaunes ont défilé à Paris et demandé l'interdiction des lanceurs de balles de défense et de certaines grenades lacrymogènes. Ni excuses ni regrets de la part de Laurent Nunez, extrait des réactions du secrétaire d'État à l'intérieur dans le journal. Nous n'avons pas pris un abonnement avec la droite. Tout est dans cette phrase prononcée par l'une des trois figures de l'aile gauche du SPD, Kevin Kühnert, qui dès lundi dernier avait demandé aux instances du parti de virer à gauche ou bien de claquer la porte de la grosse coalition SPD, CSU, CDU. Pression grand format sur la présidente des sociodémocrates, Andrea Nahles, qui a démissionné dans la matinée. Il y a urgence au sein de l'attelage gouvernemental et cela n'aura pas échappé à la chancelière allemande qui a pris la parole il y a quelques minutes. Bonsoir David Philippot.
Bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Quelle est la réaction, celle qu'elle est en train de développer d'ailleurs, d'Angela Merkel?
Alors elle était restée ostensiblement silencieuse au lendemain des européennes, mais cette fois Angela Merkel vient de monter au créneau pour envoyer un message de stabilité, une déclaration courte, une minute à peine, pour exprimer d'abord son respect pour Andrea Nahles et sa décision. Elle a surtout assuré que le gouvernement allait poursuivre son travail. Angela Merkel, qui ne fait pas mystère de sa volonté de rester jusqu'au terme de son mandat en 2021, sauf qu'en annonçant sa volonté de ne pas se représenter à sa succession, la chancelière n'est plus maîtresse de son destin. Elle est donc à la merci d'une ruade de son partenaire de coalition. On n'en est pas encore là. Le comité du SPD réuni cet après-midi, c'est-à-dire une quinzaine de dirigeants, doit s'entendre sur le nom du nouveau chef par intérim. En attendant, le congrès du parti, qui doit avoir lieu en septembre, c'est à ce moment-là que le SPD a fixé rendez-vous à la CDU pour continuer ou pas la grande coalition. En attendant, le Parti social-démocrate reste donc confronté au même dilemme, rester dans un gouvernement où il n'a rien à gagner ou provoquer de nouvelles élections où il a tout à perdre, avec le risque que les Verts engrangent les bénéfices de cette décision. Avec le départ d'Andrea Nahles, en tout cas, le Parti social-démocrate s'enfonce un peu plus dans la crise. Un sondage le donnait hier à 12% de soutien des électeurs, son plus bas historique, et le plus vieux parti d'Allemagne, qui a connu 10 présidents successifs en 20 ans, se trouve désormais en pleine crise existentielle et menace donc, à terme, en tout cas, d'entraîner le gouvernement dans sa chute.
Merci à vous, David Philippot, en direct de Berlin. Le gouvernement italien joue la carte de l'apaisement avec Bruxelles après de nouvelles déclarations fracassantes de son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui hier encore promettait d'être plus têtu que les instances européennes, des instances qui attendent de Rome une significative résorption de ses comptes publics dans le rouge écarlate. Impossible de tenir le calendrier électoral tel que proposé par ce qu'il reste du régime algérien, tel que honni par la rue. Le Conseil constitutionnel a tranché, il n'y aura pas de présidentielle le 4 juillet prochain en Algérie. La plus haute juridiction du pays n'avait reçu que deux candidatures, toutes deux invalidées. Le Conseil constitutionnel ne livre aucune autre date pour ce scrutin. Alger, Leïla Berhatou.
Le Conseil constitutionnel annonce qu'il rejette les deux candidatures qui ont été déposées il y a une semaine. Il déclare l'impossibilité de tenir l'élection présidentielle du 4 juillet et ajoute que le chef de l'État doit donc convoquer de nouveau le corps électoral. Cette élection du 4 juillet était rejetée par ceux qui manifestent chaque semaine, mais aussi par la société civile et un nombre important de personnalités politiques. Pourquoi ? Parce qu'elle n'inspirait pas confiance. Les manifestants, par exemple, réclamaient des garanties de transparence. Le mandat d'Abdelkader Ben Salah, le président par intérim, prend fin dans un mois. Le Conseil constitutionnel explique que c'est à lui de parachever le processus électoral jusqu'à ce qu'une élection ait lieu. L'Algérie va donc entrer dans une période qui n'est pas prévue par la Constitution et il faut s'attendre à de nouvelles annonces politiques dans les prochains jours.
Washington prêt à reprendre langue avec Téhéran sans condition préalable. C'est la première déclaration de cette teneur depuis que l'administration Trump a décidé de se retirer, c'était il y a un an, de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Pourquoi pas, rétorquent les autorités iraniennes, à condition que l'administration Trump, je cite, « change de comportement ». Fin de citation. Inespéré, ces premières évacuations du camp de déplacés d'Al-Hol dans le nord-est de la Syrie où survivent 74 000 personnes selon les Nations Unies. Premières évacuations demain de 800 femmes et enfants originaires de la région de Tabqa et Raqqa organisées par les autorités semi-autonomes kurdes en accord avec les autorités tribales. Bonsoir Hasni Abidi.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du Centre d'études sur la Méditerranée et le monde arabe à Genève. Hasni Abidi, c'est un défi pour les autorités kurdes. Ont-elles seulement et les infrastructures et les fonds pour prendre en charge l'éducation des enfants et l'insertion dans la société des mères de famille?
C'est un geste d'abord de bonne volonté, mais en même temps un défi lancé pour les autorités kurdes qui veulent montrer une conduite citoyenne suite à des négociations très importantes avec les chefs de tribu. Le deuxième élément, c'est qu'il y a les autorités kurdes ont reçu, autonomes bien sûr du FDS, Force démocratique kurde, composée de Kurdes et Arabes, ont reçu des garanties de la part de plusieurs organisations internationales, mais aussi de la part de certains États voisins, de les soutenir dans leur effort de réinsérer les familles qui sont importantes hein, dans leur nombre au sein de leur famille et au sein du tissu social de leur localité respective.
Vous nous dites que les moyens promis et donnés pour la plupart d'entre eux aux Kurdes sont suffisants donc pour réussir à réinsérer ces familles, enfin ces femmes et ces enfants dans la société kurde.
Oui, absolument. C'est plutôt la vie dans le camp d'Al-Hol qui est devenue très difficile. D'ailleurs, plusieurs ONG, et notamment le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations, ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que la situation est très difficile. On est arrivé à des maladies, surtout touchant les enfants, malnutrition, et une difficulté aussi d'acheminer de l'aide médicale. Et le camp d'Al-Hol, il reçoit plus de 73 000 personnes. C'est beaucoup plus que la capacité réelle de ce camp.
Alors, défi pour les autorités semi-autonomes kurdes, mais aussi faire valoir politique, parce que le régime syrien n'attend qu'une chose, que ces Kurdes soient à découvert pour les frapper. Et le fait qu'ils prennent en charge ce genre de déplacés les met aussi possiblement à l'abri d'une frappe massive de la part de Damas.
Absolument, il y a un calcul politique derrière. On sait très bien que l'annonce ou l'arrivée de la fête du fin du Ramadan de l'Aïd, et c'est pourquoi les autorités autonomes kurdes veulent les libérations et les évacuations lundi et mardi qui va coïncider avec la fin du Ramadan. Le deuxièmement, on sait qu'il y a tout un marchandage politique autour de cette zone, à la fois entre Kurdes et pouvoir syrien. Et le deuxième élément, on sait aussi qu'il y a une menace sur la frontière nord avec les menaces de l'armée syrienne de reprendre ce qui reste de Idlib. Et ça aussi, c'est un défi sécuritaire très important. Notamment, on sait très bien que les relations entre les autorités kurdes autonomes et Ankara ne sont pas très bonnes. Et c'est pourquoi les autorités kurdes veulent aussi montrer leur disposition à négocier, mais aussi leur disposition à prendre part dans ce fardeau des réfugiés et des familles de l'État islamique, notamment ceux de la région, de cette région, de Tabqa et bien sûr d'autres localités proches.
Alors, dernier point sur lequel on souhaite vous entendre, Hasni Abidi, c'est la situation, et vous avez commencé à en parler à Idlib. Qui peut encore faire quelque chose? La situation est catastrophique dans cette zone dite de désescalade qui porte si mal son nom.
Absolument, c'est une situation très catastrophique. Il y a un problème avec les autorités russes, parce que les Russes sont engagés avec le régime syrien dans les bombardements massifs qui ont touché des hôpitaux, ils ont touché des écoles et pas seulement des endroits qui abritent des terroristes selon la version du régime syrien. Et en même temps, Moscou a besoin de la Turquie dans cet accord, même si l'accord sur les zones des escalades est autant de difficultés aujourd'hui, mais Moscou a besoin de la Turquie parce qu'on sait que la Turquie a quand même une influence importante sur une grande partie de l'opposition syrienne stationnée au nord. Et c'est pourquoi, à mon avis, il est important d'arriver à un deuxième accord pour maintenir en vie l'accord de désescalade, même s'il est défaillant, parce que c'est le seul moyen d'éviter à Idlib une situation humanitaire et sanitaire très difficile et insupportable à la fois pour la région, mais aussi pour les pays voisins. Et on sait qu'Ankara ne va pas hésiter à utiliser la carte des réfugiés face à sa négociation avec l'Union européenne.
Merci à vous, Hassine Abidi, d'avoir accepté notre invitation. Transférés justement de Syrie, pour la plupart, des centaines de prévenus emprisonnés sur le territoire irakien attendent leur procès, la plupart d'entre eux pour appartenance à l'organisation État islamique. Parmi eux, des dizaines de ressortissants français, 9 d'entre eux ont été condamnés à mort en une semaine. Céline Martelet a suivi les 2 dernières audiences en date ce matin à Bagdad.
Les 2 audiences des Français ont duré moins d'une heure devant une chambre spéciale, une toute petite salle avec au centre une cage en bois où doivent se tenir debout les accusés. Fodil Tarouida, 32 ans, et Vianney Ouraghi, 27 ans, ont eu quelques minutes pour s'expliquer en présence d'un représentant de l'ambassade de France dans la salle. Pour Fodil Tarouida, c'était une 2e audience. Lundi dernier, le Roubaisien avait déjà comparu, mais le juge avait suspendu l'audience et désigné un expert médical chargé de déterminer d'où provenaient les marques sur son corps. Fodil Tarouida assurait qu'il avait été frappé en détention, mais l'expert médical irakien a conclu aujourd'hui qu'il n'y avait pas eu de coup. Fodil Tarouida a donc été condamné à mort. Le 2e français, Vianney Ouraghi, a lui, devant les magistrats, répété qu'il n'avait jamais été en Irak, qu'il n'avait pas combattu en Syrie non plus. Mais au procès, les juges se sont appuyés ce matin sur des documents de l'État islamique, des précédents aveux également, devant le juge d'instruction irakien. Les 2 français ont eu ce matin des avocats commis d'office, des avocats désignés le matin même, et qui n'ont vu leur client que quelques minutes avant le début de l'audience. Leur condamnation à mort doit maintenant être confirmée par un conseil de juges irakien. Les Français peuvent faire appel, mais en cas de rejet, il n'y aura plus d'audience pour eux.
Céline Martelet à Bagdad. Éborgnés et autres blessés au fil des mobilisations de Gilets jaunes ont décidé d'apparaître le temps d'une marche. Ils ont pris part à un défilé auquel plusieurs centaines de personnes ont participé à la mi-journée à Paris pour dénoncer ce qu'ils nomment des mutilations policières et réclamer l'interdiction des lanceurs de balles de défense et de certaines grenades lacrymogènes qu'ils qualifient d'inutilement dangereux. Une manifestation suivie par Justine Leclerc.
Les gilets jaunes blessés défilent en tête de cortège derrière une longue banderole de plusieurs mètres où l'on peut lire « Vérité et justice pour les blessés, interdiction des grenades et des LBD ». Tout à l'heure, les mutilés, pour l'exemple, comme ils se prénomment, ont pris la parole un par un pour énumérer leurs blessures.
J'ai pris un tir de LBD en pleine face.
J'ai pris un tir de LBD dans l'œil. Il est perdu.
Un tir de LBD dans l'œil, dans la joue et j'ai tout perdu.
Parmi les gilets jaunes blessés, Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement contestataire.
Le message, c'est de se rappeler au bon souvenir des médias, se rappeler au bon souvenir du gouvernement et faire réagir l'opinion publique face aux conséquences des violences policières et gouvernementales exercées sur les manifestants aujourd'hui.
Les mesures concrètes que vous réclamez aujourd'hui ?
La fin du LBD, arme de terreur politique, la fin des grenades. Et qu'on cesse avec les mutilations et qu'on revienne à une doctrine du maintien de l'ordre qui a toujours été en France et qui n'est plus respectée aujourd'hui. Et que ces gentils cow-boys de là-bas rentrent chez eux, qu'ils aillent faire leur travail, à défaut de faire les cow-boys et de mutiler les gens.
Les quelques 300 gilets jaunes et leur soutien marchent depuis la place de la Bastille. Et voilà ce que l'on entend dans le cortège.
Non, mutilation ! Stop ! Stop ! Non, mutilation ! Stop !
Invité de nos confrères de LCI, le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, a réagi à cette manifestation. Question qui lui est posée là. Seriez-vous prêt à présenter vos excuses aux blessés, Laurent Nunez ?
Je ne présente pas d'excuses, je m'en remets à la justice de mon pays. Il faut que vos auditeurs et vos téléspectateurs comprennent bien quelque chose. Quand il y a une agression contre des policiers et qu'il y a une riposte proportionnée, oui, il peut y avoir des blessés. Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale. Il faut bien intégrer ça dans le processus qui est le nôtre. Il faut surtout ne pas rendre acceptable le fait que l'on puisse s'en prendre à des policiers, aux institutions de la République, de manière violente pour exprimer des convictions. Mais quelles sont ces convictions ? Donc c'est ça qu'il faut condamner avant tout.
Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'Intérieur. 2 mots de météo du temps de demain, lundi, temps marqué essentiellement par le retour des nuages. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.